Il est 12h en temps universel, 13h à Bangui, capitale centrafricaine, sur Radio Ndekeluka. Nous vous invitons à suivre le journal avec Reine Fabienne Doutiga. Reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdial, bonjour à tous. Encore une explosion de mines dans la région nord-ouest de la République centrafricaine. Un véhicule en provenance de Paoua a sauté hier sur une mine au village Panamala, dans la sous-préfecture de Bokaranga. Les vols à main armée prennent de l'ampleur dans le 8e arrondissement de Bangui. Les habitants entendent s'organiser en autodéfense. La CPS entend se saisir de l'affaire Eugène Gaïkwessé. Information rendue publique dans un communiqué hier. Football, deuxième journée du championnat de la Ligue de Bangui. À 15h, SCAF affronte UFCB au stade Barthélémy Bouganda.
Rennes, à la une de cette édition, les engins explosifs continuent d'endeuiller la population dans le nord-ouest de la République centrafricaine.
Oui, Verdian, un véhicule en provenance de Paoua pour Bokaranga a sauté sur une mine au village Panamala, à plus de 40 km de Bokaranga centre. Le chauffeur est mort sur le champ. Isaïe Banin est le sous-préfet de Bokaranga.
Je le confirme parce que d'abord, sur les réseaux sociaux, il y a eu des images de ces véhicules calcinés. Puis après ce matin, à 7h05, le maire de la commune de Loura, où s'était survenu cet accident, m'avait appelé pour me porter cela à ma connaissance comme monsieur sous-préfet au village Panamala. Situé à 3 km du chef-lieu de la commune de Loura, il y a eu explosion d'une mine sur un véhicule des humanitaires, en particulier l'ONG DRC. Et dans ce véhicule de marque Land Cruiser, il y avait au moins 3 personnes, plus le chauffeur, donc c'est au nombre de 4. Et suite à cette explosion, c'est le chauffeur qui a eu la mort sur place et les 3 autres blessés seraient évacués au niveau de Paoua pour des soins. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Le gouvernement est en train de se mettre en œuvre pour qu'il puisse mettre fin à cela.
Isaïe Banin, sous-préfet de Bokaranga. Depuis janvier, avec l'utilisation des mines par les rebelles de la CPC suite à l'offensive des forces armées centrafricaines, on compte près d'une vingtaine d'explosions de mines ayant tué plus d'une dizaine de personnes dans le nord-ouest. Cette explosion-ci intervient 2 jours seulement après l'annonce de l'arrêt des opérations de déminage par la MINUSCA. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire de mercredi, la mission onusienne a indiqué qu'elle a eu des obstacles dans ses travaux. Pendant ce temps, avant-hier, des chefs de quartier et chefs de groupe de la Nanamabéré ont été sensibilisés par l'UNMAS sur les dangers des mines et autres engins explosifs.
Dans ce journal, Rennes, des violations des droits de l'homme en République centrafricaine ont été à la hausse la semaine dernière, selon la MINUSCA.
Selon le bilan de la mission onusienne, plus d'une vingtaine d'incidents ont été répertoriés et la plupart imputés aux agents de sécurité nationale. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, au micro de Armando Nyanguindi.
Entre le 31 août et le 6 septembre, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté 20 incidents d'abus des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont fait au moins 37 victimes. Les localités les plus touchées sont au nombre de 6, la Mambéré Kadei, Luampende, Mambéré, Luam, la Nana Gribizi et la Waka. Cette hausse du nombre d'incidents par rapport à la semaine dernière s'explique par les résultats de l'investigation spéciale à Beloko et Sangéré. Les agents de l'État, y compris les autres personnels de sécurité, sont responsables présumés de 17 incidents, tandis que la coalition des groupes armés, notamment l'MPC, l'FRC et les Antibalaka, est responsable de 3 incidents.
Insécurité toujours, montée des braquages. Les habitants du 8e arrondissement de Bangui se disent abandonnés à leur triste sort.
Il ne se passe pas une nuit sans braquage dans le secteur. Armando Nyanguindi a rencontré certaines victimes.
Visiblement, la peur et l'angoisse gagnent les habitants du 8e et surtout les propriétaires des engins roulants comme la moto. C'est le cas de Rostan, habitant le quartier Galabadia 1. Ce matin, à 3h, sa moto, quelques biens de matériel ont été emportés par un groupe de braqueurs.
Et ils ont pris mon téléphone portable avec quelques équipements. Ils m'ont dit de faire sortir la moto dehors. Il y a un militaire qui était à côté qui les a vus, qui a ouvert feu sur eux. Et ils ont directement riposté. Et quand je sortais dehors, ils étaient 6 devant la porte. 2 étaient rentrés, 4 étaient dehors. Et ils ont placé des gens devant les portes des voisins. Et ceux que je les ai aperçus, ils sont en gilet pare-balles. Ils cachent leur visage et ils portaient des casques des militaires là.
Solange est voisine à Rostan. Elle n'a pas pu dormir cette nuit parce qu'elle était aussi ciblée à cause de sa moto. Heureusement, certains porteurs de tenues de son quartier sont intervenus.
Le secteur est insécurisé. Insécurisé parce qu'il y a plusieurs cas de braquage qui se produisent à chaque fois. Et quand on fait recours aux forces de l'ordre qui sont là, ils sont aussi incapables de venir sur les lieux des braquages. Vraiment, nous lançons un vivant appel à l'endroit du gouvernement pour que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous.
S'il est difficile d'identifier les braqueurs, Thierry Ndoyo, député du 8e 1, lui pointe du doigt certains éléments de force de sécurité nationale.
C'est des militaires qui viennent voler. Si vous achetez une moto, c'est comme si vous achetez votre propre tombe. Malgré on a le ministre de la Sécurité dans notre circonscription, mais en tout cas, le 8e, c'est une zone à haut risque. Je lance un vibrant appel à nos autorités d'agir.
Dans ce climat qui les inquiète, les habitants du 8e arrondissement de Bangui attendent s'organiser en autodéfense pour sécuriser leur secteur.
Armand Yangendi sur Radio Ndeke Luka.
Justice dans cette édition, presque une semaine après l'arrestation de Jean Kossé, la Cour pénale spéciale s'intéresse à son dossier.
La CPS a manifesté dans un communiqué hier le désir de se saisir des crimes nationaux, internationaux et autres violations graves des droits de l'homme qui auraient été commis par le capitaine Eugène Kossé. Eugène Kossé, ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé, a été arrêté samedi dernier à Liton au PK22 sur l'axe d'Amara. Il est cité depuis plus de 15 ans dans des crimes commis dans la partie nord de la République centrafricaine entre 2005 et 2007.
Le journal se poursuit sur Radio Ndeke Luka. Le ministère de l'administration du territoire réagit au désordre qui règne au sein du parti Rassemblement démocratique centrafricain, RDC.
Huit verdiales de bureaux se disputent le règne du parti pour David Gbeti, directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. Si ce problème persiste, son département prendra ses responsabilités et cela pourrait aller jusqu'à la dissolution de ce parti politique. David Gbeti au micro de Armando Yanginti.
C'est plusieurs fois que des partis politiques comme le RDC sont venus vers nous. Nous constatons ce caractère récidiviste de ces conflits internes, parfois liés à des intérêts personnels. Dans un pays en crise, il faut régler les conflits avec beaucoup de tact dans la vision de la consolidation de la paix pour ne pas attiser le feu. Et donc, pour nous, nous commençons par l'esprit de conciliation, de réconciliation, surtout le RDC qui prône la démocratie, qui prône la vision de Sozola, doit respecter les textes qui régissent leur fonctionnement. Nous les conseillons. Quand ils n'acceptent pas cela, qu'on peut réagir pour aller à la vitesse supérieure, soit pour les diminuer, soit pour dissoudre le parti.
13h07, partons pour Sakai, à la périphérie ouest de Bangui. Les agriculteurs et éleveurs peuvent désormais augmenter leur production.
Ils ont reçu mercredi de nouveaux outils agricoles et des animaux pour l'élevage. Il s'agit entre autres de charrues, des bœufs, des moutons et des cabris. La remise a été faite par l'ONG allemande WHH. Précision des Dalouti Diko.
Une vingtaine de groupements agropastoraux ont bénéficié de cet appui. Il fait suite à une collaboration nouée ces trois dernières années avec ses producteurs, ce qui a permis à WHH de recenser leurs besoins. Au total, 16 bœufs équipés de charrues, une décortiqueuse de paddy, un magasin de stockage du riz, une aire de séchage, des moutons, cabris et porcs ont été repartis à ces groupements. Quelques membres s'en réjouissent.
Je suis du groupement Zionakwa de Sakai 3. J'ai reçu le bœuf de... Mais on a grande joie. Pourquoi ? On travaille seulement où matière, ça ne suffit même pas. Mais pour le moment, on avait des choses qu'on va rapporter de l'argent pour aider nos enfants.
WHH nous a donné 2 chèvres et 1 bouc. Donc ils sont tous au nombre de 3. On va les élever jusqu'à ce que le nombre atteint un nombre qui est vraiment raisonnable.
Ce matériel a pour objectif d'aider ces groupements à augmenter leur capacité de production afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. En plus de cet aspect, l'ONGW WHH annonce un autre appui. Fabien Bizoza, responsable production agricole.
Les appuis en cours sont nombreux, mais nous avons les plus proches qui sont, par exemple, assurer la commercialisation des produits agricoles issus de la production de cette commune et aussi la transformation de ces produits et la traversée de la rivière Mpoko. Nous avons un projet qui va conclure finalement l'installation d'un bac ferry pour la traversée de la rivière Mpoko.
La localité de Sakai est l'une des localités qui ravitaille la capitale Bangui en produits agricoles et d'élevage. Cependant, l'accès à cette partie de la commune de Bimbo 3 est difficile en raison de la dégradation avancée de la seule piste rurale.
Santé dans ce journal, l'épidémie de la méningite a été déclarée cette semaine en République démocratique du Congo qui partage la frontière avec la RCA.
Oui, l'épidémie est déclarée dans la province de la Tchopo qui est une commune située au nord de la ville de Kisangani, ce qui présente des risques de contamination compte tenu des multiples mouvements des populations vers la République centrafricaine. Pour l'instant, on compte 261 cas et 129 décès depuis le début de l'épidémie. Des chiffres qui inquiètent déjà les représentants de l'Organisation mondiale de la santé dans la région.
20 ans après les attentats du 11 septembre 2001, à New York, en Virginie et en Pennsylvanie, les États-Unis préparent les commémorations de demain.
Oui, les tours jumelles du Wall Street Center de New York s'effondraient, frappées par un double attentat terroriste. Aujourd'hui, les États-Unis s'apprêtent à commémorer la mémoire de près de 3000 morts liés à ces attentats. C'est quelques jours plus tard que le président américain George Bush décidait d'envoyer ses troupes en Afghanistan et en Irak pour combattre le groupe islamiste. Ces attentats ont provoqué des nuages de poussière qui sont à l'origine de nombreuses maladies dans le pays. Bienvenue Bello pour les sports, bienvenue, bonjour.
Bonjour Reine, bonjour à tous.
Le volleyball centrafricain à l'honneur au niveau international, Jean-Pierre Bernardin Badekara, nommé membre de la commission juridique de la Confédération africaine de cette discipline.
C'est la première fois qu'un dirigeant centrafricain atteint ce niveau depuis la création de la Fédération de volleyball en 1964. Quel avantage le volley centrafricain pourra tirer de cette position, Jean-Pierre Bernardin Badekara?
C'est une grande joie pour le volleyball centrafricain et surtout pour tous les acteurs de cette discipline. C'est une joie pour tout le monde. C'est le résultat de ce que nous avons fait depuis ces quelques années. Nous avons déposé la candidature. Ma candidature a été retenue et donc je suis membre désormais de la commission légale près la Confédération africaine de volleyball. L'avantage serait d'abord de siéger auprès des autres nations nanties du développement de cette discipline. Effectivement, le rôle qui est imparti à cette commission, c'est de proposer des sujets hautement techniques et spécialisés pour le développement de volleyball en Afrique. Et ensuite, ma présence va aussi porter la voix du volleyball centrafricain à ce niveau. Beaucoup de questions qui concernera le développement, la pratique de volleyball en Centrafrique.
Jean-Pierre Bernardin Badekara était à votre micro. Bienvenue, Bilo.
Cependant, la CAN de volleyball se déroule à Kigali, au Rwanda. Démarré le 5, ce tournoi va prendre fin le 16 septembre prochain.
Basketball, les jeunes et l'apprentissage des fondamentaux. Aussitôt arrivé à Bangui, Eugène Pewa Pelema est déjà en plein format avec les jeunes basketteurs centrafricains.
Le nouveau directeur technique national, le champion d'Afrique de 1987, partage des connaissances aux jeunes inscrits à l'Académie Mbongo Basketball depuis lundi. Des séances qui se déroulent à partir de 8h au Palais des Sports avec les élèves basketteurs.
Poursuite aujourd'hui de la deuxième journée du championnat de la Ligue de Bangui.
Oui, Rennes, en ce moment même à partir de 15h, SCAF reçoit Université Football Club de Bangui au stade Barthélémy Boganda. Hier, les Anges de Fatima ont battu Espoir Club de Bégoua 1-0, but de Saint-Fort du Mokoyen sur pénalty provoqué par Nikez Ozingoni. Pendant ce temps, à Bozoum dans l'Ouampende, la deuxième journée du championnat qui démarre aujourd'hui à 15h, SCAF va se mesurer à Espoir de l'Ouampende.
Football féminin, les footballeuses de moins de 20 ans s'activent dans la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Pour bien préparer la rencontre entre la RCA et le Nigeria prévue le 25 septembre à Douala au Cameroun, un match de préparation s'est joué ce matin au stade Barthélémy Boganda. Les fauves de moins de 20 ans ont affronté les cadets masculins de l'Est Tempête Mokaf ce matin. Résultat, 7-2 en faveur des cadets.
Merci à vous, bienvenue Bilou. Ainsi pour enfin ce journal en français. Merci aussi de votre écoute. La version en langue nationale, c'est après cette courte pause.